Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1 pour une édition déjà collector de l'équipée sauvage, puisque nous y sommes, on l'a fait, on a tenu un mois coupé du monde. À mes côtés, elle tient encore le coup, mais elle redoute ce jour où Denis Brognard éteindra sa torche en s'exclamant de sa voix perfide.
Prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
Rentrez, un jour il faudra rentrer chez vous, Eva Rock, vous êtes toujours confiné dans ce studio.
Il va falloir que j'y pense, ouais, exactement. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au cours de ces deux heures, vous allez nous proposer, Eva, moult activités audiovisuelles pour occuper petits, moyens et grands. Mais d'abord, j'aimerais qu'on retrouve celle qui est évidemment en ligne avec nous aujourd'hui, mais qui avait été l'ultime invitée physique, si j'ose dire, de l'équipée sauvage en public le mois dernier. Cette époque encore bercée d'insouciance où elle, à moins d'un mètre de moi et moi, à moins d'un mètre du public, on hurlait gaiement.
Corona,
bonjour Mel Rabédia.
J'ai honte,
ça paraît loin.
C'était
il y a seulement un mois, ce son. Vous étiez venu nous présenter avec Alison Wheeler, Forte, une comédie qui hélas n'a pas pu sortir en salle, Covid oblige évidemment, mais qu'on va pouvoir découvrir quand même grâce à Amazon Prime Video qui diffuse le film en exclusivité à partir d'aujourd'hui, c'est ça Melra?
Tout à fait.
C'est un soulagement pour vous ou une semi-déception le fait que le film ne sorte pas en salle? On imagine que c'est
un
peu gênant.
C'est un soulagement, qu'on ait pu s'adapter à la situation qui est complètement inédite, on n'avait jamais vécu
c'est
ça.
Sûr.
Moi je m'attendais à me battre contre un James Bond, avoir trois entrées comme d'autres films français qui ne méritaient pas d'avoir deux entrées, mais là c'était complètement inédit, donc je suis hyper contente qu'on soit obligé d'aller dans les salons des gens.
Et ça pourrait être d'ailleurs, on va en parler, une chance pour le film qui va être du coup vu dans plein de pays en même temps.
Ah bah j'ai hâte de voir mon doublage en yougoslave, hein, je vous dis.
ça peut être beau, nous aussi on a hâte de l'entendre. Mel Rabédia, vous allez nous raconter aussi votre confinement, juste le temps de vous présenter nos deux premiers journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour, car ici je vous le dis tout de suite, pas d'union sacrée. Le premier, vous le connaissez. C'est un économiste qui, la dernière fois, avait pas mal tapé dans l'œil de votre ami Alison Wheeler, souvenez-vous.
Moi, je connais bien Alison, je crois qu'il est en train de se passer un truc, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que ça fait de foutre? Le premier économiste qui passe, tu le chauffes.
C'est pas n'importe quel économiste, c'est Axel de Tarlé, le dauphin d'or 2003 du meilleur journaliste.
Ah. 2003, hein.
Mais c'est pas si loin, 2003. Oh, bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour, je suis ravi que Mela revienne, mais je suis très déçu qu'il n'y ait pas Alison Wheeler à l'antenne.
Axel, vous êtes un muf, d'autant que votre femme certainement vous entend, vu qu'on est tous confinés chez nous. Alors aujourd'hui, Axel, c'est un sujet qui pourrait vous valoir le dauphin d'or, au moins la sardine de bronze 2020. Les Chinois seront-ils les grands gagnants de l'après-coronavirus?
Ben voilà, exactement, parce que les Chinois, ils redémarrent avant les autres, hein, vu qu'ils ont eu l'épidémie avant les autres. Et du coup, il y a beaucoup d'industriels européens qui disent, oh là là, mais ils vont rafler les marchés pendant que nous on est confinés. Mais il y a plus grave que ça même, il y a beaucoup de, y compris la Commission européenne, qui s'inquiète de ce que les Chinois, après le corona crack boursier, ne rachètent nos entreprises à bas prix qui valent une bouchée de pain.
Ah bah, il manquerait plus que ça. Ouais. Votre rival du jour, Axel, est absolument redoutable, même si, avouons-le, à force de vivre en Allemagne et de pratiquer au quotidien la langue de Goethe, elle a parfois un peu de mal à repartir sur celle de Molière.
La suite de ses aventures dans une chronique drôle, instructrice. Oh là là, je peux reprendre?
Ah bah non, Hélène.
Là, vous parlez bien allemand, mais le français, vous maîtrisez moins. Hein. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour à tous.
Pauvre Hélène.
Vous êtes notre correspondante à Berlin. La semaine dernière, vous aviez, on peut le dire, survolé la compétition avec un sujet où vous nous aviez raconté comment le fantasque roi de Thaïlande s'amusait à piloter son Boeing en bikini pendant le confinement. Aujourd'hui, sincèrement, je pensais que vos chances de faire mieux étaient quasi nulles. Jusqu'à ce que je découvre votre sujet, je cite, le succès fou de la douchette qui remplace le PQ, Das Douchette. Bref, mettez-nous, si je puis dire, l'eau à la bouche.
Eh bien écoutez, ils ont inventé l'imprimerie, l'automobile et l'aspirine, entre autres. Hein. Eh bien face au défi du coronavirus et celui de la pénurie de PQ, les ingénieurs allemands ne se sont pas laissés abattre. Ils ont peut-être trouvé l'objet culte de cette épidémie.
Oh mon Dieu, j'ai peur.
Pas encore de vaccin, mais une douchette à fesses. Merci Hélène, le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
L'équipée sauvage.
Cet après-midi, les amis, avec notre invité Mel Rabédia, on regarde dans le rétro. C'était le vendredi 13 mars dernier. On riait tous ensemble, en public. Alain Sirou nous avait même acheté des tickets de loto et on se prenait à rêver. Mais vous imaginez si quelqu'un gagne, on revient, on fait une spéciale émission, mais c'est la dernière du coup, parce qu'on en fout.
Et par contre, on ramène vraiment des putes, de l'alcool et tout.
Et on mettra une barre de pole dance pour avoir une petite démonstration.
Et je peux vous dire que millionnaire, je me frotte une heure.
C'était il y a une éternité, c'était il y a un mois. C'était avant le confinement. Mel Rabédia, c'est aujourd'hui que sort finalement le film que vous avez coécrit, hein, il faut le dire, Ford. Vous êtes vraiment à l'initiative de ce projet sur Amazon Prime. Donc, il va falloir s'abonner à Amazon Prime. Eva, ça coûte
oui,
combien?
Oui, alors si je puis me permettre, oui. c'est gratuit le premier mois. Voilà.
Exactement. C'est ce que, exactement ce que j'allais dire. Voilà.
Ah ben, c'est le moment
elle
ou jamais.
Elle comme moi, j'adore.
Mais oui.
Alors, Melra, vous avez proposé lundi sur Instagram une nouvelle bande-annonce résumant parfaitement la situation. On en écoute un extrait.
Melra Bedia était une fille pleine d'entrain et d'optimisme. Elle était sur le point de réaliser son rêve de gosse, sortir son film au cinéma. Jusqu'au jour où le sort s'acharne. Elle a pas eu de chatte, quoi.
J'ai donc décidé la fermeture de tous les lieux recevant du public, notamment des restaurants, cinémas, discothèques.
Le couperet tomba. La sentence était irrévocable. Melra l'avait dans le baba.
Non.
Alors Melra, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez hésité? Est-ce que vous vous êtes dit, on va attendre et sortir le film, je ne sais pas, en septembre, avec tous les risques que ça comporte, qu'il y ait un embouteillage de films? Ou est-ce que tout de suite, vous avez milité pour cette option de sortir sur une plateforme VOD?
Bah, au début, on y croyait vraiment jusqu'à la fin. La preuve, on était venus chez vous vraiment.
C'est vrai.
Jusqu'au dernier moment. On y a cru, on pensait qu'un vaccin allait être trouvé en 24 heures, mais visiblement, non. Du coup, ouais, franchement, on nous a proposé différentes dates. Et après, on a réfléchi. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il faut essayer d'être un peu plus moderne que d'habitude et arrêter de penser qu'à soi et au fait que c'est super classe d'être dans un... Là, on s'en fout du cinéma. On ne sait même pas si les cinémas vont réouvrir tout de suite. Donc, franchement, je me suis dit, l'idéal, ce serait de s'adapter à cette situation et rien de mieux que les plateformes pour aller rencontrer son public tout de suite dans leur living room et leur canapé et leur foyer qui est en train de battre de l'aile.
Et puis en plus, ça va faire du bien. C'est vraiment la comédie dont on a envie en ce moment.
Avec Eva, on l'avait vu à l'époque. Ouais. On vous le conseille. C'est vraiment le film Feel Good à découvrir en ce moment qui va vous faire du bien. Vous pouvez le découvrir donc avec Alison Wheeler, Valérie Lemercier également sur Amazon Prime dès aujourd'hui. Melra Bedia reste avec nous.
Europe 1.
À suivre, la dernière fois qu'il avait tenté de parler d'économie à Melra, Axel de Tarlet avait eu un peu de mal à l'embarquer dans son monde.
Vous savez qu'il y a les frais de notaire. Les frais de notaire, ils vont dans quelle poche? Eh ben, ça va dans la poche des maires.
Je te crois pas.
Ben, en fait, on appelle ça abusivement les frais de notaire.
C'est chiant.
En fait, c'est les frais de maire, voilà. On devrait dire ça, voilà.
Les fruits de mer.
Axel aura-t-il plus de réussite aujourd'hui? Son sujet, en tout cas, en vaut la chandelle. Non pas les fruits de mer, mais cette question. Et si la Chine, après avoir été le berceau de la pandémie, devenait la grande gagnante de l'après-pandémie? On en parle juste après Jack Johnson, Banana Pancake sur Europe. Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Hardly even noticed when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mm-mm-mm. Can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singer ringing, it's too early. Pick it up. We don't need to. We got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Don't really need to pay attention to the alarm. Wake up slow. Mm-mm. Wake up slow. Even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe
asleep. Make you banana pancakes. Pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? We gotta wake up slow.
Les pancakes à la banane, c'était Jack Johnson sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi se disputent le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Pour l'emporter, mieux vaut ne pas être timide ni modeste. Une chance pour notre premier concurrent cet après-midi. Sa deuxième passion, l'économie. Sa première passion, lui. Quand il termine un sujet, il n'attend pas la réaction de ses collègues ou des auditeurs, car la vie d'amateur ne compte pas. Son seul arbitre, son seul baromètre, c'est lui. Mesdames et messieurs, je vous présente Jean-Michel Sekif.
Oh là là, il y a même une chute sociétale dans mes papiers, hein. Oh là là.
Jean-Michel Sekif, alias Axel de Tarlé. Vous êtes notre expert éco. Et cet après-midi, vous posez une question assez intéressante, je dois dire. La Chine va-t-elle finalement être la grande gagnante de la crise du coronavirus ?
Non, mais alors, d'abord, je tiens à préciser que comme je ne gagne pas souvent dans votre émission, si moi-même, je ne me lance pas de fleurs, si vous voulez, je n'ai plus qu'à me flinguer.
Oh, mon pauvre Axel.
Donc, il y a un moment...
C'est une stratégie,
on est confiné. On a besoin un petit peu de s'auto-rassurer. Alors maintenant, pour ce qui est de ma chronique du jour, la peur des Chinois. Effectivement, c'est que la Chine est en train de déconfiner. Ah ben c'est bien, je vais gagner en humour. Je vais pas gagner sur en économie, mais je vais gagner en humour. Donc, les Chinois sont en train de déconfiner, hein, les usines reprennent à Wuhan, et il y a une grande peur des industriels européens, c'est que eh bien, les pays déchargent leurs marchandises et qu'ils ne prennent les marchés, parce qu'en ce moment, les PME, les petites entreprises sont à l'arrêt, et donc par exemple, si Renault redémarre la semaine prochaine, qu'il trouve pas de fournisseurs français, il ira se fournir auprès de fournisseurs chinois. Donc ça, c'est une première peur, c'est d'être envahi commercialement par les Chinois. Mais il y a une deuxième peur qui est plus profonde, c'est d'être envahi capitaliste.
Dur à dire ça.
Voilà, hein. C'est dur à dire ça. Par le capital chinois. C'est-à-dire que les entreprises européennes, après le corona crack, après le crack boursier, valent une bouchée de pain en bourse. Hein. Si vous regardez Renault, ça vaut 5 milliards d'euros. Petit exemple, Tesla, qui produit 10 fois moins de voitures. Vous savez combien ça vaut en bourse, Tesla ? Ça vaut 130 milliards de dollars, vous voyez ?
Mais comment c'est possible que Renault vaille 5 milliards alors qu'ils produisent 20 000 fois plus de voitures que Tesla ?
Bah exactement. Bah voilà. Bah Renault ne vaut plus rien en bourse. Mais même si vous regardez une société comme Accor, ça vaut à peine 7 milliards. Si vous voulez, 7 milliards, c'est un résultat net. Une grosse boîte, elle gagne 7 milliards par an. C'est-à-dire qu'une grosse boîte chinoise avec un an de bénéfice pourrait
racheter Accor. Le groupe Accor qui a un réseau d'hôtels énorme dans le monde entier.
Qui est le numéro 1 européen de l'hôtellerie.
Carrément.
Et c'est pas une vue de l'esprit. Vous savez que les Chinois, il y a deux groupes chinois qui ont déjà respectivement 14 et 4% d'Accor.
Donc ils pourraient montrer au capital de ces grands groupes, en fait, c'est ça? Aussi.
Et même les racheter.
Et les racheter entièrement, oui.
Voilà. À tel point que la Commission européenne, par la voix de Margrethe Vestager, qui était la chantre du libre-échange, qui disait, vous savez, c'est une Danoise qui disait qu'il faut être ouvert vers le monde, elle vient complètement de changer de logiciel. La semaine dernière, dans le Financial Times, elle a exhorté les États européens à entrer au capital de nos fleurons qui s'exposaient justement à être rachetés par des Chinois. Et c'est ce que dit, vous savez, quand le gouvernement français dit « je vais intervenir au sein d'Air France », c'est à moitié pour aider Air France, mais c'est aussi pour être présent au capital et pour pouvoir contrer d'éventuelles OPA chinoises. Et c'est amusant de constater comment notre regard sur la Chine a profondément changé en 10 ans. Il y a 10 ans, les géants du CAC 40 disaient « la Chine, c'est un Eldorado, c'est une terre de conquête, il faut y être, car si vous avez 1% du marché chinois,
oui, c'est énorme,
vous êtes,
en termes de
vous
volume,
êtes les rois du monde ». Voilà. Et maintenant, pas du tout. D'abord, le marché chinois s'est avéré décevant, et la Chine est vue comme une menace, un, par sa production, et deux, par ses capitaux. Et donc, c'est un peu tous aux abris, vous voyez, retour dans la forteresse Europe, la Chine est devenue une menace dont il faudrait se protéger.
Eh bien, voilà un sujet fort bien mené.
Ah, oui.
Ah, là,
oui,
effectivement,
oui, oui.
Vous avez cloué le bec, je ne sais pas comment on dit en chinois, mais c'était un beau sujet que c'était. Et bravo, bravo aussi pour votre courage, sortir une nouvelle chronique à charge contre la Chine qui vous a déjà dans le collimateur depuis votre funeste imitation de Xi Jinping.
Je fais Xi Jinping qui n'est pas content.
C'était vraiment couillu. Bravo, Axel.
Europe 1.
Dans un instant, on retrouve notre invitée, la comédienne et humoriste Mel Rabédia. Restez sur Europe 1, la radio ouverte et ouverte sur le monde, comme je l'avais justement prouvé à Melra le mois dernier.
Est-ce qu'on dit Mel Abédia ou Mel Rabédia ou Mel Rabédia, je ne sais pas.
C'est ce qui sort.
Mel Rabédia.
Ouais, vous le dites bien.
Et oui, j'ai été en week-end à Marrakech.
Oui. Quand je pense que certains disent que je ne suis pas un vrai journaliste sous prétexte que je ne vais pas sur le terrain. Et le Sofitel de la place Jamal Efna alors, hein.
Europe 1.
16h, 18h,
l'équipée sauvage.
Sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'infos, de rires, mais aussi de belles rencontres, comme celle qu'on a faite le 13 mars dernier. On ne savait pas encore que ça serait notre dernière émission avant le confinement. On recevait Alison Wheeler et Mel Rabédia, deux comédiennes talentueuses qui n'ont commis, finalement, durant l'émission, qu'une seule erreur, voler la vedette à Eva Ross, qui s'est permis de leur faire remarquer lorsque, durant un disque, elle se lâchait un peu trop à son goût.
Mais non.
J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison.
C'est bon les filles. Ouais.
Ah oui.
On y va.
Oui, oui, on y va. Mais dis donc, Eva, respectez un peu les invités si elles ont envie de chanter. Alors.
Ouais, vous avez merci, même le droit de chanter aujourd'hui, Melra.
Merci d'être avec nous. On le rappelle, Fort, le film que vous étiez venu nous présenter donc le 13 mars dernier, n'est pas sorti en salle, mais il sort sur Amazon Prime dès aujourd'hui, ce qui pourrait avoir une conséquence finalement inattendue, faire de vous une star internationale.
Écoutez, c'est un peu le risque. Écoutez, je veux bien essayer, je veux bien tenter le coup. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que vous dise. C'est vrai qu'après, il sort dans 250 pays, donc vraiment, vraiment, j'ai hâte.
C'est-à-dire que c'est aujourd'hui dans les 250 pays ou c'est d'abord une sortie Amazon Prime France ?
C'est d'abord la France et je crois qu'ils ont besoin d'une petite semaine, voire 10 jours de doublage, vraiment.
Ah oui.
Dans toutes les langues et après, ils le balancent sur toutes les autres plateformes dans le monde.
On rappelle en quelques mots l'histoire. Hein, vous interprétez Nour, vous avez quelques kilos en trop, un bonnet en guise de coupe de cheveux, vous êtes plus à l'aise en jogging basket qu'en talons aiguilles. Vous avez un peu de mal avec les hommes qui vous considèrent plus souvent comme leur meilleur pote que comme une potentielle target, et vous décidez, pour remédier à tout ça, de vous mettre au pole dance. Et j'ai découvert avec vous que le pole dance n'était pas un truc à la con, mais un véritable sport.
Ah oui.
On a tous des je vous jure qu'on a tous eu des a priori, ma mère la première, je vous jure que c'est vrai. Mais au final, c'est pas juste des meufs frivoles qui ont chaud et qui sont en shorty et qui se frottent à la barre pour exciter l'homme, je vous jure. C'est bien plus profond que ça, sans mauvais jeu de mots, je vous jure. Et du coup, bah moi, ça m'a fait du bien, la pole dance, vous voulez que je vous dise. J'allais les juger, et en allant les juger, je me suis rendu compte que c'était un sport à part entière, qu'en fait, c'était pas des femmes frivoles et légères, c'était aussi des femmes qui étaient des athlètes. Parce que, Mathieu, demain, dès qu'on sort du confinement, je m'engage à vous emmener faire un cours de pole dance, et vous allez comprendre votre douleur.
Ah, oui, voilà.
Je serais incapable
c'est
de faire quoi
curling,
que ce soit avec une barre.
Curling, c'est vraiment pour les bouffons, je vous le dis.
Et Melra, est-ce que justement, pendant le confinement, alors qu'on essaye tous de faire du sport, plus ou moins du yoga, des conneries comme ça, est-ce que vous continuez le pole dance chez vous? Vous avez une barre à disposition?
Bah, écoutez, je ne vais pas vous mentir, je suis en confinement chez ma cousine à Levallois-Perret. J'ai essayé de décrocher sa tringle, elle m'a défoncé avec. Je vous jure, c'est vrai. Il dit non, mais laisse-moi essayer, je fais un truc rigolo. J'ai enlevé la tringle, elle m'a défoncé.
Comment ça se passe comment ça se passe le confinement?
C'est chaud. Hein.
Ouais. Comment ça se passe sinon le confinement, Melra? Vous avez plutôt la pêche
fou,
ou...
Elle m'a dit la pole dance, c'est chaud. Elle m'a dit ouais. Alors comment ça se passe?
Eva, elle est partie sur sa question. Ouais.
Non, mais parce qu'elle sait que je suis une... En fait, c'est une menace. Elle sait que je vais serrer les gens du studio d'Europe 1 après.
J'ai trop peur.
Pardon, non, dites-moi.
Non, mais parce que vous avez. Voilà, on a l'impression que vous avez la pêche et que vous êtes en plus contente de la sortie de ce film sur Amazon. Est-ce que vous gardez le moral tous les jours ou c'est un peu dur cette période de confinement, vous qui êtes hyper énergique et qu'on imagine hyper active?
Bah écoutez, moi à la base, pour tout vous dire, je suis une hypochondriaque. Donc, comment vous dire que, en fait, pour une hypochondriaque, ce qui est en train de se passer, c'est un truc qu'on avait prévu il y a 15 ans et personne ne nous écoutait. Hein. On a toujours dit qu'un jour il y allait avoir une pandémie, que le gouvernement n'allait pas avoir assez de masques et tout. C'était une vanne à la base, sauf que c'est vraiment en train d'arriver. Et du coup, bizarrement, en tant qu'hypochondriaque, je vois que c'est tellement grave ce qui est en train de se passer Il y a tellement des choses qu'on n'est pas en train de respecter. On n'a jamais respecté, on n'a jamais regardé vraiment dans le blanc des yeux ce personnel soignant. On le calculait à peine. On était les premiers à dire « Oh, les infirmières, elles sont reloues, elles ne savent pas trouver la veine quand elles nous font une... » Ben, en fait, c'est quoi ? On va commencer à ravaler un peu notre... et fermer nos petits clapets de Français qui se plaignent tout le temps. Et il va falloir regarder un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qu'on ne considérait pas, qu'on va devoir considérer. Et moi, je suis pour qu'on augmente les infirmières, le personnel soignant, les éboueurs, les caissières, tous les gens qu'on calculait peu, finalement. Et en fait, il y a une vraie prise de conscience. Donc, je suis un peu contente et je vais me présenter en politique. Voilà, je suis très premier degré.
C'est parti, une autre carrière s'offre à vous. Melra, est-ce que vous bossez actuellement ? Alors, vous êtes active sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous écrivez, par exemple, un deuxième film, ou est-ce que vous êtes encore dans un moment un petit peu de sidération par rapport à l'épidémie, où c'est difficile, finalement, de créer une œuvre ?
Non, mais comme tout le monde, il faut bien s'occuper. Et il n'y a rien de mieux que de faire des Skype. Moi, je fais un Skype... tous les jours avec Alison, on écrit le prochain film, et j'ai un autre film aussi que je développe avec Anthony Marciano. Donc je crois qu'on fait que des Skype et des FaceTime, on fait semblant de travailler, mais ça nous fait du bien.
Pourquoi faire semblant? Ouais, vous faites pas semblant si vous écrivez.
Non, on fait semblant parce que je dis qu'on fait semblant parce qu'à un moment donné, il y a toujours BFM en fond, et dès qu'il y a le Premier ministre qui va parler avec sa barbe à moitié blanche, on se dit oulala, attends, bouge pas, pause, pousse, on travaillera demain, je vais aller écouter ce qu'il nous raconte. Donc je dis on fait semblant, mais parce qu'on a toujours l'esprit dans cette fameuse crise sanitaire. Quoi. On se dit putain, comment on va faire ?
Forte, le film que vous défendez, qu'on retrouve sur Amazon Prime, nous raconte l'importance d'être soi-même, de se trouver finalement. Est-ce que cette période étrange qu'on est tous en train de vivre, selon vous, va nous changer individuellement ? Est-ce que c'est le moment de réfléchir à qui on est, ce qu'on veut faire de notre vie ? Est-ce que vous pensez que vous serez une Melra différente à la sortie du confinement ?
j'espère. Enfin, j'espère que. Mais j'ai l'impression que les Français sont en train un peu de réfléchir autrement. J'ai l'impression qu'on est tout de suite plus solidaires, on a plus le temps de penser à l'autre. Et je trouve que dans notre malheur, il y a un truc qui est en train de se bouger. C'est pas mal. Il y a un truc où on a l'air d'être meilleur. Après, peut-être que je suis trop utopiste, mais j'ai l'impression que les voisins, ils découvrent enfin qu'il y avait des personnes âgées dans leur immeuble. Moi, j'ai découvert des tentes. J'avais pas pris de nouvelles de mes tentes depuis très longtemps. Bah, là, je fais des FaceTime. Enfin, j'ai l'impression qu'on devient des meilleurs humains. Je sais pas. Hein. Vous apparemment, non.
Hein. Ah, non, Mathieu. Moi, je suis toujours aussi détestable. On n'a toujours rien à foutre. Hein.
Ah ouais,
moi, je suis hypochondriaque comme toi, mais
parler,
je suis.
Là je vois que personne n'est d'accord avec moi, donc je me dis, bon, en fait, vous deux, vous n'êtes pas... Ok, d'accord. Il n'y a que moi qui ai un cœur blanc. Ok, très bien.
Non, mais Mathieu n'a pas de cœur, je vous confirme. Mais c'est-à-dire que j'arrête pas de vouloir faire des FaceTime avec lui, il ne répond même pas, quoi. Il appuie
alors,
sur le bouton.
Ouais. Eva, on ne va pas prendre Melra à témoin, mais pour votre anniversaire, j'ai essayé d'organiser un apéro FaceTime géant. Vous m'avez dit, oh non, j'aime pas ça, je ne veux pas donner mes données privées sur l'application Scoop ou je ne sais pas quoi.
Oui, voilà,
alors, vous
ne
foutez pas de ma gueule, Eva.
Non, c'est vrai.
Si, je vous avais
entre
bien sûr.
Ah, je vous dis qu'elle était méfiante. Je la sens méfiante, Eva.
On sait maintenant qui a un cœur dans cette équipe, on le sait. Merci Melra d'avoir mis le doigt sur ce sujet sensible. Elle aurait pu devenir une grande star en France avec sa prestation dans Forte, mais comme le film ne sortira pas en salle finalement sur Amazon Prime, dommage pour elle, elle deviendra seulement une star mondiale dans quelques semaines. Melra Bedia, merci d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi et bonne continuation.
Merci beaucoup, à vous aussi, bon courage.
Europe 1.
Comme dirait le poète camerounais Anissé Mbida, nos petites fleurs sont sensibles et elles méritent le meilleur. D'où, probablement, la ruée sur les rouleaux de papier cul dans les supermarchés. Une frénésie qui a donné des idées à une start-up allemande, ou plutôt, comme dirait Axel...
Une start-up.
À une start-up qui a décidé de proposer une alternative étonnante au papier toilette. Une douchette portative. Das portative douchette. Alors, fausse bonne idée ou vraie aubaine pour vos petites fleurs? La réponse juste après Jérémy Elkaïm, reprenant un classique. Les bêtises sur Europe 1.
J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les cravenas. Et comme t'étais toujours pas là,
j'ai tout vidé le rhum coca.
Caché dans ton bureau, fallait pas me quitter, tu vois, il est beau, monter le bahut. J'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu menu. J'ai tout brûlé les beaux tapis. J'ai tout scié les pieds du lit. Tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter. C'est les poubelles. J'ai tout pillé ta belle vaisselle. Attends, c'est pas tout à fait tout. J'ai aussi fait rentrer tous ces fous. Fallait pas me quitter.
C'était Jérémy Elkaïm sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même retranché chacun chez nous, vous écoutez l'équipe est confinée, volume 30. La bataille explosive qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1, des journalistes qui, ces derniers temps, confinement oblige, ont dû délaisser les sujets nobles comme la politique, l'économie, pour aller à l'essentiel, le PQ. La ressource la plus précieuse après l'or à l'heure actuelle. Pour nous en parler, une journaliste sans scrupules qui, pour l'emporter dans cette compétition, ne recule devant aucun stratagème. Quand elle donne rendez-vous à ses fans sur les réseaux sociaux, elle laisse toujours planer un doute en écrivant « à tout à l'heure ».
Peut-être en string, ça, on ne sait pas.
Bonjour, Fräulein Kohl.
Bonjour, Mathieu Noël.
Vous êtes Hélène, notre correspondante à Berlin, pays décidément en pointe à tout point de vue. L'ingénierie médicale, les voitures de sport et désormais... les douchettes portatives pour se rincer la petite fleur, comme dirait Anissé.
Oui, face à cette crise du coronavirus, l'Allemagne a le calme souverain d'Angela Merkel, 500 milliards d'euros dans ses caisses, des tests par centaines de milliers, et donc effectivement la douchette à popotin. C'est très sérieux, c'est une start-up berlinoise qui a mis au point ce système alternatif au papier toilette. Eh bien, elle a vu ses ventes s'envoler depuis le début de l'épidémie, chiffre d'affaires multiplié par 10. Parce que face à la crainte d'une pénurie de papier toilette, les Allemands se sont jetés sur cette petite gourde souple équipée d'une douchette. Alors le principe est assez simple, on remplit cette flasque d'eau tiède, puis quand on a fini ses petites affaires, on appuie sur la gourde et ça envoie un jet d'eau bien ciblé qui vous nettoie.
Bien ciblé. Est-ce que c'est vraiment bien ciblé? Parce que sinon ça peut vraiment mener à du sacré débordement.
Écoutez, ça c'est votre problème. Le produit à la base, c'est censé vous nettoyer tout en douceur. Alors ça s'appelle Happy Po. Alors Happy happy comme joyeux, hein, et heureux en anglais, et puis pot comme le postérieur ou le popotin en allemand. Donc le nom du produit était tout trouvé, c'est le joyeux derrière, le happy pot made in Germany.
C'est génial.
Alors Hélène, franchement, comment en vient-on à produire ce genre d'objet? Il faut avoir quand même de l'imagination.
Alors en fait, l'objet existe depuis 4 ans et il est né dans la tête d'un ingénieur de la région de Stuttgart qui bossait à ce moment-là dans la filière de la vis et des chevilles, donc on est assez loin de notre petite affaire. Il était chez le leader mondial du secteur même, et Oliver Elsou, c'est son nom, était amené à beaucoup voyager, et notamment en Asie, et là-bas, vous le savez peut-être, oui, le papier toilette, ce n'est pas la norme au Japon ou en Inde. Hein, on préfère se laver les fesses à l'eau, et donc notre ingénieur allemand se dit, ah, il y a peut-être un coup à faire ici en Allemagne. Alors, il pense en fait avant tout aux touristes, aux gens qui font du trek, les randonneurs, etc. Il se dit, ça c'est un gros marché, les Allemands aiment bien faire de la rando. Puis ça colle aussi aux attentes du mouvement environnemental du zéro déchet, notamment. Pas d'emballage, pas de papier qui traîne, pas d'arbres sacrifiés pour nos chers petits popotins. Parce qu'il faut savoir quand même que la consommation de PQ en Allemagne, c'est 12 kilos par personne et par an. Et en fait, son produit marche bien aussi dans les maternités, dans les maisons de naissance, etc., pour l'hygiène intime des femmes. Mais bon, on restait quand même jusqu'à présent sur un truc de niche.
Sauf que le coronavirus a changé la donne.
Oui, parce que tout d'un coup, le PQ a pris la une, en fait. Hein. On ne parlait plus que de ça fin mars en Allemagne. Alors en mars, même dès le début du mois. Alors pénurie, pas pénurie, faut stocker, faut pas stocker. Est-ce que les Polonais vont pouvoir nous en livrer, etc. Donc fin du tabou autour du papier toilette. Et énorme coup de pouce du destin pour notre start-up qui avait jusqu'à présent plutôt du mal à communiquer autour de son produit. Et figurez-vous que le Happy Pot a même fait l'objet d'une vidéo d'une des influenceuses les plus en vogue du moment ici en Allemagne sur les réseaux sociaux. Alors normalement, elle chronique ses séjour à Los Angeles, bien là, elle s'est repliée sur une vidéo vie pratique depuis sa salle de bain. Et visiblement, elle est assez convaincue par ce produit qui coûte environ 20 euros.
Ah oui, c'est
réutilisable
cher.
Pendant des années. Ouais, mais vous le réutilisez.
Eh oui, non, c'est pas cher du tout. Ouais, c'est bien. Ouais.
Donc, en Allemagne, on en trouve au supermarché. En France, il faut passer par Internet pour en trouver.
Et j'ai un message à l'instant de Anne Le Gall, notre spécialiste environnement, qui me dit qu'elle utilise le joyeux derrière depuis déjà 2 ans. Elle fait partie des pionnières qui ont testé la chose. En France, ça ne m'étonne pas d'elle. C'est écolo. Merci beaucoup, Hélène Cole, pour ce sujet très propre. Et je vous dis donc à la prochaine fois.
Peut-être en string, ça, on ne sait pas.
Si le temps le permet, Hélène, on croise les doigts. On croise les doigts.
Et on peut sortir.
À suivre, lassée des humiliations répétées que lui avaient fait subir nos invités dans l'épreuve du quiz, Eva Rock avait fini fin janvier par consulter une voyante.
Ah bon ?
Afin qu'elle l'aide à deviner les questions à l'avance. Hélas, à l'issue d'une série de 29 défaites d'affilée, Eva devait se rendre à l'évidence.
Saloperie de sorcière ! Dorénavant, j'irai à la Samaritaine.
Vous aimez les combats déséquilibrés ? Le meilleur du quiz arrive. À tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h-18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Muscler dans un même élan vos neurones et vos zygomatiques, voilà la promesse de l'équipe est sauvage. 2 heures de bonne humeur, mais aussi d'érudition, notamment grâce à feu la séquence du quiz de Culture G qui opposait Eva Rock à l'invité. Eva, dont, il faut l'avouer, la malice, pourtant légendaire, était souvent insuffisante face aux connaissances encyclopédiques de nos invités. À moins, bien sûr, c'est une théorie qui circule, que les questions fussent biaisées à l'avantage de cette invité. On ne saura jamais.
Sûr.
On ne saura jamais. Mais c'est une théorie intéressante, car Eva a toujours été extrêmement maligne et extrêmement précoce, oula, comme sa grand-mère, Jocelyne Rock, avait pu le constater alors qu'elle était à peine majeure.
Le prince charmant va sans doute te surprendre par son comportement, mais surtout n'aie pas peur.
T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais.
Pour fêter ça, Eva, je vous propose justement qu'on se réécoute quelques-uns des meilleurs moments du quiz. Quand vous vous retournerez sur votre carrière, Charles Berling, vous réaliserez un jour qu'il y a eu 2 moments fondateurs, décisifs. Votre casting avec Claude Sauté pour le casting de Nelly et Monsieur Arnaud, et votre quiz face à Eva Rock. Êtes-vous prêt à relever le défi?
Il n'a pas dit oui,
oui, je suis prêt.
Mais il a peur,
mais je suis très
tremble,
quiz,
elle aussi.
Non, mais moi aussi.
Alors, chaque jour, un quiz. En hommage à la pièce de Yasmina Reza, Art, que vous jouez avec Jean-Pierre Darroussin, on a décidé aujourd'hui de faire un vrai faux sur l'art. Ça montre qu'il y a de la créativité dans notre émission. Attention, chaque bonne réponse vaut 1 point. Charles Berling, un pigeon, est capable de différencier un Picasso d'un Monet. Vrai ou faux?
Faux.
Vrai. L'université de Kyo au Japon a mené des expériences sur des pigeons à qui on a montré des toiles de Picasso. Ils devaient picorer sur un interrupteur pour avoir de la nourriture. Quand on a mis d'autres toiles avec d'autres interrupteurs mais en les mélangeant avec d'autres peintres, ils ont obtenu un taux de bonne réponse de 90%. Vous avez compris?
Ah oui, mais la question est truquée parce que moi, on me dit Picasso ou Monet. Mais non, est-ce qu'il peut différencier Picasso d'autres peintres? C'est pas la même chose. Non. Franchement, affinez vos couilles.
Il y a une réclamation a été déposée par l'invité.
Ouais, c'est triché, quoi.
L'huissier l'étudiera tout à l'heure. Eva Rock, vous connaissez le peintre néerlandais du XVIIe siècle, Vermeer.
Oui.
Mais Vermeer, c'était son nom ou son prénom?
Si vous me posez la question, je pense que...
Regardez peut-être l'invité qui vous fait du grand signe.
C'est son nom.
C'est son nom, bonne réponse. Son prénom, c'était Johannes. Par contre, pour Rembrandt, c'est son prénom.
Rembrandt.
Et oui, puisque son nom, c'était Van Rijn. Et je vous rappelle que Juste Fontaine, c'est juste son prénom. Attention, une question, trois propositions, vous répondez ensemble. En 2006, Steve Wynn vend un Picasso intitulé Le Rêve. Un accord est trouvé sur le prix, 139 millions de dollars. Mais au dernier moment, la vente capote. Pourquoi ? 1. Steve reçoit un coup de fil de sa mère qui finalement veut l'accrocher au-dessus de son lit. 2. Steve donne un coup de coude dedans et fait un trou. 3. Steve ne se souvient plus dans quel coffre il a mis le Picasso.
Et je suis comme vous, Charles. Je pense que c'est la 2, c'est le coup de coude dans la toile.
Alors vous dites le coup de coude dans la toile, oui.
Et Charles
Moi aussi.
Ouais.
Vous aussi, et vous avez raison, tous les deux. Un ça... gros trou.
Monsieur, qu'est-ce qu'on a gagné?
Vous allez voir. Ah. Un mug européen, probablement. Un gros trou de 20 cm, et ce, juste avant la vente. Finalement, il vendra la toile réparée 7 ans plus tard pour un montant de 155 millions de dollars.
Ouais, je sais, je l'ai chez moi, cette toile. C'est pour ça que je le savais. Parce qu'il y a le petit truc, là. C'est recousu.
Eva Rock, Tim Patch, plus connu sous le pseudo de Picasso, peut faire votre portrait pour 75 dollars et ce, en peignant avec son sexe. Vrai?
Mais alors, le pire, c'est que je suis sûre que c'est vrai, cette histoire.
Vrai?
Voilà,
Eva, vous avez raison,
voilà.
Vous avez gagné. Il a déjà fait des portraits de Michael Jackson et George Bush. Il utilise de la peinture acrylique pour ne pas endommager son pinceau. J'aime cette précision. Enfin, Charles Berling, cette question va vous départager. Voici quatre stars. Qui, parmi ces quatre stars, n'a jamais peint de sa vie? Boris Vian, Charles Bronson, Julio Iglesias ou Zaz?
Zaz.
Vous avez tort, la seule personne qui n'est pas peint ici, c'est Julio Iglesias.
Ah bon,
et oui,
sûr.
Vous pouvez voir les peintures de Zaz sur son compte Instagram.
Absolument.
Vous quel faux cul, quel acteur, ben. Mesdames et messieurs, Charles Berling. Il peut tout jouer, hein, il peut tout jouer. Ah, j'adore Zaz. Bronson et Vian ont peint régulièrement. Julio Iglesias, vu son nombre de descendants, avait autre chose à foutre.
Merci Mathieu.
Avec mauvaise foi, c'est Charles Berling qui gagne.
Qu'est-ce qu'on a gagné, Mathieu?
Je vous dis, un mug européen. Et vous repartirez chez vous avec et vous serez bien heureux. J'évoquais tout à l'heure le casting que vous avez passé avec Claude Sauté pour votre rôle dans Nelly et Monsieur Arnaud. Et j'aimerais que vous nous racontiez ce qu'il vous a dit, Claude Sauté, les raisons pour lesquelles il vous a choisi, car je trouve que c'est très juste.
vous les prouvez aujourd'hui. Et il m'a dit, toi, je vais te prendre pour ce rôle parce que quand tu dis quelque chose, quand tu affirmes quelque chose, on ne sait jamais si tu parles sérieusement ou si tu te fous de notre gueule.
Mais en lisant le dossier, j'ai trouvé que c'était vraiment la phrase qui vous résumait bien.
Ah bah merci.
Bah non, mais c'est la force d'un acteur.
Bah oui,
c'est mieux.
C'est une force.
J'aimerais que vous nous racontiez ce qui s'est passé en 94 durant une représentation du Bavard à Avignon. Parce que ça, dans un film... On n'y croirait pas.
Non, tout à fait. Un jour, j'en avais parlé à Jean-Loup Dabadi qui m'a dit « Tu mets ça dans un scénario,
c'est
personne
ne
te croit.
Ouais. »
Hein. C'est parce que j'ai joué une pièce tout seul au Festival d'Avignon, qui s'appelait « Le Bavard » d'ailleurs, une pièce de Louis-René Desforêts. Et il se trouve que pendant la représentation, à un moment donné, je posais des fausses questions au public. Et quelqu'un, j'entends une voix dans le public qui dit « Oui, moi j'ai quelque chose à dire, c'est très mauvais. » Et moi, je joue, je continue à jouer, parce que ça peut arriver que des gens dans le public se enhardissent comme ça de faire un commentaire. Et puis ça continue, et puis à un moment donné, cette voix... Et puis moi, je me dis, je connais cette voix. Et puis j'entends à un moment donné, oui, c'est mon fils, et je lui ai dit que c'était très mauvais, qu'il ne fallait pas faire ça, machin, etc. En fait, c'était ma mère à ce moment-là qui me parlait. On était un peu fâchés, et puis bon, elle avait trouvé ce moyen pour qu'on se reparle. C'était une femme de caractère.
Ah, ça, on le voit. Mais les gens dans la salle, ils ont compris que c'était la réalité ou ils ont pensé que c'était un happening dans la pièce, en fait?
Non, ils ont pensé que c'était une excellente actrice, que c'était la pièce, en fait. Et je dois dire que ça a été un triomphe absolu parce que je pense en plus que bon, moi j'étais, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement fragilisé. C'était très compliqué pour moi, mais Mais je pense que le public, à ce moment-là, c'est très animal, le théâtre. Alors, le public sent qu'il se passe quelque chose qui dépasse la routine de la représentation. Là, il y a vraiment... On est dans un état... Et donc, ça a été un triomphe, ce qui était à la fois une joie et une souffrance.
D'ailleurs, c'est juste pour préciser, vous avez raconté votre maman dans un livre qui s'appelle « Aujourd'hui, ouais. maman est morte oui. » avec Sophie Blandinière. C'est à retrouver aux éditions Flammarion, si oui. vous voulez lire. C'est un très, très beau récit de la vie de votre maman.
Oui, parce que ça, c'est une femme qui est née au Maroc. C'est au fond, je trouve que c'est une histoire particulière, mais qui rejoint l'histoire universelle et l'histoire générale de la France et de ses colonies, enfin, et de ses protectorats, et ainsi de suite. Et donc, cette histoire-là, elle a créé des relations humaines, et moi, j'en suis le fruit.
Europe 1.
Un mois, 30 jours, 720 heures confinés avec ceux que jadis vous aimiez quand vous les voyez une heure par jour et que désormais vous supportez. Et pour ceux d'entre vous qui en plus sont des ados, c'est quasiment mission impossible. Flicage des cours, flicage des heures passées sur la PS4, sur Insta et TikTok, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bord de la rupture. Il y a même des moments où pour les faire réagir, qu'ils se bougent, qu'ils se lavent, qu'ils se tiennent droit à table, vous seriez prête en tant que mère à leur dire n'importe quoi, un truc du style.
J'ai une énorme révélation à te faire. I am not ta mère. Ta mère, ma fille, la femme de ton père était ta mère. Ma mère, à la mort de ta mère, ton père, ma fille, me dit « Sois la mère de ma fille. » Je fus donc ta mère sans être ta mère. Mais pour mon cœur de mère à mère, tu étais ma fille.
N'en arrivez pas à de tels mythos, d'autant que ça va vous coûter cher en psy derrière. Préférez la méthode Rock. Vous les foutez gentiment devant un écran et tout se passera bien. Eva vous dévoile ses conseils du jour juste après Trevor Daniel, Falling sur Europe 1. C'était Trevor Daniel sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Mais je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on se découvre, qu'on se révèle à nous-mêmes dans cette phase de confinement.
Oh là là, j'ai peur.
Prenons au hasard Eva Roche.
Oh bah au hasard.
Au hasard, bien sûr. Femme indépendante, libre, mais qui désormais est sur le fil. Car si en temps normal, le célibat ne lui pèse pas, désormais cloîtrée chez elle comme une nonne du couvent des oiseaux, il commence à lui peser sévère, le célibat. Comme en témoigne sa réaction hier quand André Manoukian lui a joué 3 notes de piano. Et il fut une époque où il lui fallait bien plus que 3 notes de piano pour succomber. Généralement plutôt 3 spritz ou 4 Moscow Mule. Mais ça, c'était avant.
Eva finit par retomber sur ses
ses pattes et sur sa base.
C'est pas mal.
Par contre, cet accord de sol à la fin, il demande quand même une certaine résolution. On sent une insatisfaction.
Ah oui, ça je vous confirme.
Le sol se résout sur le dos et ça tombe bien parce que moi je suis do majeur. Donc voilà, petit message pour Eva.
Je dis oui tout de suite, André, vous savez. Moi, si vous jouez du piano comme ça, voilà.
Eva, je comprends votre impatience, mais essayez quand même de vous respecter un peu. Je vous rappelle en outre votre mission.
Oh mon Dieu.
Votre mission fondamentale désormais dans
mais
cette émission.
Mais on peut dire ce qu'on veut, on est à distance. Donc si, oui, ça,
c'est vrai,
ça compte
oui,
ça, pas
oui,
en
vous,
fait.
Vous pouvez dire que vous êtes open, alors
bah
que
oui,
non, c'est
exactement. Ouais.
Votre mission, Eva, si vous l'acceptez, aider les parents qui nous écoutent à télétravailler en trouvant une occupation aux enfants et ados qui braillent dans la maison.
Oh, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, deux excellents programmes encore aujourd'hui dans des genres très différents et pour des âges différents aussi. Le premier s'adresse vraiment aux tout petits à partir de 4 ans. Ça s'appelle L'imagier animé de Koumi. C'est à retrouver sur mycanal.fr. Alors, Koumi, elle a 6 ans. C'est une petite fille très curieuse. Elle a une passion pour les animaux. Elle adore les observer et comprendre comment ils vivent. Koumi, c'est vraiment un personnage animé, mais qui évolue au milieu d'images réelles des bêtes en question. Alors, ça va des hippopotames ou fennecs en passant par la baleine, le pangolin, le fameux pangolin, le koala, voilà. Et Mathieu, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, j'ai choisi le blaireau. Aucun rapport avec vous, évidemment.
Est-ce que c'est...
Voilà.
Okay. C'est ignoble.
Écoutez bien.
Les auditeurs jugeront.
J'ai appris un tas de trucs sur cet animal grâce à Koumi, notamment le nom de la femelle et des petits.
Vous vous toilettez ensemble aussi pour retirer les poux et les tiques qui se cachent dans votre fourrure. Tiens, celui-ci sur son ventre, je vois des mamelles. C'est donc une blairelle, un blaireau femelle. Ce sont ces mamelles qui permettent de nourrir les blaireautins à la naissance, comme chez tous les mammifères.
Alors à chaque fois, Koumi, elle aborde la vie sociale de l'animal, son lieu d'habitation, sa nourriture, la zone du monde où on peut le croiser. Et puis il y a aussi quelques avertissements, comme c'est le cas par exemple pour le blaireau. Koumi va expliquer aux enfants qu'il s'agit d'une espèce protégée parce que longtemps chassée pour sa fourrure. Chaque séquence dure 5 minutes. Vous savez, vous, que c'était la blairelle, la femelle
non,
du blaireau, voilà.
Je ne le savais, je confesse.
Mais vraiment,
pas le savoir.
C'est vraiment très très bien fait. Le niveau de langage est plutôt élevé. Il est possible que vos enfants vous demandent parfois la signification d'un mot. Mais sincèrement, je préfère ça plutôt qu'un vocabulaire complètement bêta. Il y a 20 épisodes qui sont disponibles sur mycanal.fr et ça s'appelle L'imagier animé de Koumi. Voilà.
Très bien, Eva, le blaireau a une question.
Oui.
Est-ce que vous auriez un programme pour les plus grands?
Oui, et alors, c'est un excellent film d'animation qui est disponible sur France.tv et qui est diffusé ce soir sur France 4 à 21h. Alors, France 4 propose donc Zombielennium. C'est un régal. On est dans une ville du nord de la France. En lieu et place des terrils, il y a un drôle de parc d'attractions, Zombielennium, donc, qui est peuplé de loups-garous, de zombies, de vampires. Et puis, il y a un personnage qui arrive, qui s'appelle Hector Sachs. Il est contrôleur de normes. Il a promis à sa petite fille de l'amener un jour dans ce lieu un peu bizarre. Mais en fait, lui, il déteste cet endroit. Et au bar, il va rencontrer un habitant qui est tout aussi réfractaire à ce lieu.
À la place de ce parc, il y avait la mine où j'ai travaillé. Et un jour, boum, coup de grisou, des dizaines de camarades, tous morts. Et ben, il paraîtrait que ce sont eux qui travaillent dans le parc. Oui, monsieur, le diable a pris possession de leurs armes.
En plus, ils embauchent que des étrangers.
Et ma fille qui veut que je l'y emmène. Ah, je te le fermerai, ce parc de malheur.
Justement, ça serait pas votre boulot, des fois, ça?
Mais oui. Mais je leur colle un contrôle sauvage, moi, ce matin même.
Et donc, il va y aller, Hector Sachs. Il va se rendre dans le parc en question et il va mourir. Donc, le voilà métamorphosé en monstre. Non, c'est les deux premières minutes. Non, je ne vous ai rien spoilé du tout. Il est métamorphosé en monstre. Il est séparé de sa petite Lucie, de sa fille, donc. Et dans le parc d'attractions, il va quand même parvenir à se faire une place. Il va même devenir une des stars avec sa prestation dans le train fantôme. Mais il doit se méfier de la concurrence des vampires séducteurs, un peu façon Twilight, vous savez, que les adolescentes plébiscitent. Alors, au-delà de cette histoire, les créatures, Arthur, les créatures, les pauvres, les créateurs, surtout.
Les créatures, Arthur... c'est peut-être des créatures
aussi. Oui, aussi. Les créateurs Arthur Depin, qui est auteur de la bande dessinée qui a donné lieu à cette adaptation, et Alexis Ducor décrivent en fait une société totalement désindustrialisée. Ils se moquent des capitalistes, souvent plus inhumains que les zombies. Ils vantent le syndicalisme. Ils louent aussi la laideur physique de certains. Alors évidemment, ce sont les adultes qui en feront cette lecture de ce dessin animé, ce film d'animation. Et tout le monde, en revanche, se régalera, les ados comme les grands, de la bande-son qui est très rock, qui est porté notamment par le groupe Skip the Use, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de, musique tout au long de ce long métrage. Ça dure à peu près 1h20. Ne manquez pas Zombielennium, c'est à voir ce soir sur France 4 ou en replay sur France.tv. Sincèrement, je me suis absolument régalée. Voilà.
C'était le conseil d'une autre sublime créature, Eva Rock. Merci à vous.
Europe 1.
Une première page va se tourner dans l'Équipée sauvage. Une émission qui, sous l'apparence d'une compétition journalistique sans pitié, cache en réalité une aventure humaine hors norme, marquée par l'incroyable amitié qui unit tous les membres de l'équipe. Oula. Et en ces temps de confinement, où faire l'émission relève du défi technique, j'aimerais saluer l'entrain et la bonhomie de la seule d'entre nous à se rendre encore en studio pour coordonner les différentes chroniques. Une solitude qui n'entache en rien sa bonne humeur.
Incapable ! Vous êtes des incapables ! J'ai affaire à une bande de porcs, merdeux !
Oui, mais merci Eva de rester aussi joviale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.